travail. Vous ne savez pas encore ce qu'on va vous présenter.
C'est la deuxième fois que ça arrive.
Alors, je précise, s'il vous plaît, il ne s'agit pas de documents de travail. Il s'agit d'une présentation avec une forme nouvelle, plus agréable, travaillée cet après-midi, terminée cet après-midi pour une présentation ce soir. Ce sont des décisions que nous avons. Mais non, Madame Lagoutte, non. Vous n'avez pas le même niveau d'information que nous. C'est comme ça.
Il n'y a pas de transparence.
Mais là, on informe tout le monde. Et oui, on prend des décisions dans les règles de la loi, dans les règles du cadre légal, dans les limites de ce que la loi autorise, de ce que le conseil municipal m'a voté comme prérogative, et on n'attend pas le prochain conseil municipal pour réfléchir aux solutions qu'on mettrait en œuvre dans un conseil encore ultérieur. Donc, nous avons pris certaines décisions, et nous avons décidé, en toute transparence, de pouvoir en discuter, en débattre avec l'ensemble des élus ce soir. Donc, nous avons prévu un document qui n'est qu'un document de présentation. Ça n'est pas un document de travail, c'est une présentation pour expliquer quelles sont les décisions que nous avons prises, quel est l'état d'avancement du plan de sobriété énergétique de la ville. Allez-y, vous pouvez avancer, Frédéric, pardon. Alors, donc, vous avez ici un premier document qui est donc un rappel. Tu peux pas trop parce que là je ne le relis plus à gauche. Un rappel du contexte difficile dans lequel nous situons. Avec donc le rappel des consommations par type d'énergie. Donc, le premier calendrier, vous avez à gauche l'électricité des bâtiments qui représente 23% de la dépense. L'électricité EP, c'est pour éclairage public. On y reviendra après sur ce qu'on a décidé pour l'éclairage public. Et voilà, l'éclairage public, ça n'est que 7% de la dépense énergétique, de la dépense électrique énergétique de la ville. Et le gaz, 70%. Donc ici, en termes de dépenses. Donc l'éclairage public, donc tout dépend si on regarde la consommation, la part de consommation ou la part en coût, en dépense. Donc électricité, gaz, éclairage public et bâtiment. Bon, ça ce sont les gaz à effet de serre. Donc on voit bien que ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est la consommation de gaz justement. Donc la consommation d'énergie de la ville de Nancy est majoritairement liée au gaz naturel pour 70%. L'électricité des bâtiments est le deuxième poste de consommation pour 23%. Les dépenses sont plus équilibrées en raison du prix plus important de l'électricité. Ça, c'était pas en 2019, ça vaut plus la peine. Les émissions de CO2 sont donc majoritairement dues au gaz naturel. Alors ici, vous retrouvez donc les chiffres que nous avons déjà distillés un petit peu dans la presse notamment. Alors Q1, Q2, Q3, Q4, ce sont les trimestres. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Ce sont des chiffres, oui je le dis aussi parce qu'on nous reproche beaucoup de choses, et notamment de ne pas concerter. Le 5 octobre déjà dans cette même salle, nous étions en assemblée générale avec l'ensemble des personnels municipaux pour leur présenter les difficultés. Chaque service, et ça leur avait été présenté d'ailleurs, nous avions auparavant réuni de manière informelle les syndicats sous la forme du CHSCT aussi. En conseil municipal, on avait déjà fait un point d'information aussi. On avait fait la présentation du test.
Oui. M. Chikaya dit qu'on avait présenté ce document.
C'est ce qu'elle vient de dire, Madame le maire.
Non, les pourcentages.
Plus les pourcentages.
Chiffres. Je voulais insister sur le travail de concertation qui a été mené avec les services et au sein de chaque service. On avait demandé au directeur de réfléchir, on a eu l'Assemblée Générale Extraordinaire pour présenter les enjeux à l'ensemble des personnels, quel que soit leur grade, quel que soit leur niveau de responsabilité, quel que soit leur service, parce que ces enjeux, ces difficultés, elles concernent tout le monde. Et donc ensuite, dans chaque service, il y a eu des solutions d'élaborer. Donc, vous avez... Je reviens sur quelques chiffres. Donc, première colonne sont les chiffres 2019. Pourquoi 2019 est l'année de référence? Parce qu'il n'y a pas de Covid. Donc, tous les services fonctionnent et tous les services sont ouverts et tous les services accueillent du public. Ce qui n'était pas le cas en 2020 et en 2021. Donc, c'est pour ça que l'année de référence, c'est 2019. Et donc, vous voyez à l'écran l'explosion des dépenses de gaz. Pour l'année 2019, donc 276 000 euros de factures acquittées de gaz, vous multipliez en gros par 6,5 et vous arrivez au prévisionnel 2023 à hauteur d'un peu plus d'un million 6. Alors, je le dis tout de suite, vous avez parlé, monsieur Billoux, tout à l'heure, de l'effort de l'État sur, non pas le bouclier tarifaire, puisque le bouclier tarifaire ne concerne que les communes de moins de 2000 habitants, ce qui n'est pas notre cas, mais d'un dispositif pour compenser peut-être à hauteur de 70% de la dépense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour 2022, on n'en sait rien pour 2023. A priori, ce serait plus 70%, mais que 20%. D'autre part, quand on est sur une explosion à quasiment 1,5 million, une compensation à hauteur de 70%, ça laisse quand même 30% de l'augmentation à la charge de la ville, et 30% d'1,5 million, ça fait quand même un peu plus de 400 000 euros. Faut trouver de nouvelles recettes pour compenser la hausse des coûts. Et ça, c'est juste pour le gaz. Là, vous n'avez pas l'électricité. Il faut bien avoir en tête électricité indexée sur le gaz. Il faut bien avoir en tête qu'évidemment, les bâtiments, les écoles, la crèche, contrairement à ce que vous avez pu écrire, parce que vous écrivez vraiment n'importe quoi, évidemment que la crèche, on la chauffe. Évidemment que l'enjeu, c'est de garder les services publics ouverts. Donc, avec
c'était
une
pas,
crèche...
pas n'importe quoi, c'était vérifié. Hein. Et oh, oui, oh, une semaine pendant laquelle la crèche n'a pas été chauffée. Comme le gymnase, hein, vous avez...
En secret, on envisage la fermeture de la piscine, du cinéma, de l'espace culturel, du multi-accueil pour les bébés. C'est un mensonge.
Non, c'était...
Si, c'est un...
Pas justement.
Si, c'est un mensonge.
C'est un mensonge.
En secret, ben oui, vous avez décidé de travailler de cette façon-là.
Vous mentez.
Non, on ment pas.
C'est mais n'allez pas dire ce que je fais en secret, qu'est-ce que vous en savez? Moi, je vous dis que c'est un mensonge, ce que vous écrivez. Donc là, ce sont uniquement les factures de gaz. Donc sur 2019, on est sur de la conso et de la facture réelle. Sur 2022, on est pour partie sur du prévisionnel. Hein, et sur 2023, totalement sur du prévisionnel. Pour avoir un ordre d'idée, le coût du mégawatt de gaz, qui était à 13,74 € il y a un an, a eu son pic au 1er octobre 2022 à plus de 90 € du mégawatt. Négocier, parce que sinon au prix du marché c'était 138,
c'est ça.
Et il va redescendre au 1er janvier 2023 à 83,5. Donc on est quand même très très loin des 13,74 €. Voilà, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc ici, voilà, vous avez sous une forme différente, hein, mais l'explosion des coûts, donc les 4 trimestres et le total de l'année, toujours uniquement sur le prix. Donc ça, c'est un document qui a déjà été présenté lors du dernier conseil municipal, issu du travail du SDESM. Donc je rappelle, le SDESM, c'est donc le syndicat des énergies de Seine-et-Marne, qui a, depuis 2 ans, a réalisé une étude énergétique des bâtiments. Donc les bâtiments les plus consommateurs, vous avez la consommation brute à gauche.
Tu veux présenter?
Et donc, ce graphique vous montre le ratio en abscisse, vous avez le ratio kilowatt par mètre carré. Et c'est ça qui nous a servi dans notre réflexion, bien non pas de regarder simplement la consommation brute des bâtiments, mais la consommation au mètre carré, pour essayer de densifier comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et donc apparaissent en rouge comme étant les équipements qui coûtent le plus cher, le centre nautique, le gymnase, l'hôtel de ville également à droite. Donc ici, c'est une présentation de la réflexion qui nous a guidés. Notre premier objectif est donc, comme nous l'avons déjà dit, le maintien des services publics et le regroupement des différents secteurs dans les bâtiments les moins énergivores. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ferme un bâtiment qu'on ferme un service, hormis pour la piscine, évidemment. Temporairement, bien sûr. Donc, voilà le fruit des nombreux échanges entre services. Et je veux saluer particulièrement l'équipe d'agents, l'équipe de travail qui a travaillé sur ce plan de continuité d'activité pour réfléchir à une réorganisation, consulter les entreprises, élaborer des plans, les remettre en question parce que finalement on n'arrivait pas à avoir les devis ou on n'arrivait pas à avoir les matériaux ou il y avait les nouveaux éléments, etc. Le tout dans l'urgence, le tout en supplément du travail habituel des uns et des autres dans les services. Et donc voilà le fruit du travail conjoint service élu. Donc, la médiathèque ne ferme pas. Le principe d'une médiathèque, c'est d'avoir des agents spécialistes du livre, de la lecture, de l'accès à la lecture pour tous, qui puissent travailler avec les écoles. Donc, tout cela va continuer. Un médiathécaire peut très bien se déplacer, aller travailler dans une école, et c'est même avec presque soulagement que les enseignants ont accueilli cette proposition, puisqu'ils nous ont dit « Oh, chouette, ils vont pouvoir venir dans nos écoles ». Je vous avoue qu'on était un peu surpris, parce qu'on s'était dit « Mais pourquoi ils ne venaient pas ?» Ah ben non, avant, ils refusaient de se déplacer. Donc, bien évidemment, les médiathécaires peuvent se déplacer pour aller travailler dans les écoles. On peut imaginer quand même que c'est du temps d'activité de gagner pour les enfants, parce que c'est du temps de déplacement qui est évité. Et donc, la médiathèque accueillera également d'autres services. Donc, les collections vont être resserrées. Ce n'était pas notre proposition initiale. Je vous avoue que notre proposition initiale, c'était de laisser la médiathèque sur les deux niveaux et d'utiliser tout l'espace de bureau à l'étage, qui est très, très important, pour y installer d'autres services municipaux. Et finalement, les médiathécaires nous ont fait une autre proposition. Ils nous ont fait un plan pour regrouper les collections sur un seul niveau. Donc, plan que nous avons retenu. Donc, les collections sont déjà en cours, hein, puisque la médiathèque est fermée cette semaine. Elle rouvrira la semaine prochaine, donc elle est fermée pour cet usage. Donc, d'étudier, voir quels sont les ouvrages qui sont les plus utiles, les plus utilisés, et resserrer les collections. On avait par exemple une salle dédiée au CD. On sait très bien qu'il y a quand même très peu de gens qui viennent étudier, prendre des CD à la médiathèque. Donc c'est aussi l'occasion de s'interroger, de remettre en cause un petit peu les usages pour s'adapter à la situation de crise que nous connaissons. Donc, la médiathèque sera donc installée au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc, sur l'espace actuel de la médiathèque, on trouvera donc la direction de la culture et de l'événementiel, ainsi que les directions de l'éducation et de la jeunesse, dont le guichet unique. Donc là, ça répond pour partie à votre question, Madame Lagoutte. Les bureaux des directeurs de centres de loisirs seront donc... ah non, ils seront... Non, pardon. Donc, c'est uniquement la direction de l'éducation. Je voulais préciser aussi qu'on a essayé de se dire... on fait face à cette crise. Comment essayer de trouver des avantages à des situations complexes et difficiles et inattendues. Et bah, tant qu'à faire, on s'est dit on va regrouper les services. Et du coup, que la culture, l'événementiel, l'éducation et la jeunesse puissent travailler ensemble, on pense que ça ne pourra qu'être un avantage. Alors, je voudrais en profiter également pour saluer, pour remercier les agents, parce qu'on comprend que ce soit difficile pour eux. Les incertitudes telles que j'ai pu les décrites, hein, on fait un plan A, un plan B, et puis ça change parce qu'on n'a pas les devis, parce qu'on n'a pas... Voilà. Donc, c'est, tout ça, c'est source d'inquiétude, on en est bien conscient. Mais malgré tout, donc les déménagements ont commencé, on va en parler après. Et voilà, je pense qu'on tient tous à saluer l'investissement des agents, que ce soit ceux qui pilotent cette gestion de crise, comme ceux qui ont, pour certains, déjà déménagé, leur capacité d'adaptation et leur sens du service public pour faire passer leur mission avant, j'ai envie de dire, leur confort personnel, ou, parce que c'est jamais facile de changer. Voilà. Donc, dans les bureaux, donc dans la partie droite, donc au-dessus de la salle des râteliers, on trouvera donc la direction générale des services, la direction des ressources humaines, donc services qui vont donc quitter le château, et la direction de la communication, qui est actuellement dans le bâtiment face à l'église et qui va donc quitter ce bâtiment-là également. Voilà. Donc, ne restera à l'hôtel de ville que le service des affaires générales, maintenu avec un chauffage autonome. La salle d'attente a d'ores et déjà été installée tout de suite à l'accueil de la salle des affaires générales. Et la salle des mariages est maintenue. Le CCAS, donc les bureaux des agents du CCAS ne bougent pas. Et le CCAS accueillera le service HPN dont vous avez parlé, la direction des accueils de loisirs, ainsi que la direction informatique. Voilà. Parce que la difficulté, hein, on l'a déjà dit, 47 000 m² de bureaux à Nangy, c'est énorme. Et quand on multiplie, de bâtiments publics, surface de bâtiments publics, quand on multiplie les sites, on multiplie les lieux d'accueil, on multiplie les salles de réunion. Donc là, on a vraiment essayé d'être dans un raisonnement et une gestion sobre des choses. Donc le CCAS, les bâtiments, les bureaux sont densifiés. La police municipale, qui, comme vous le savez, depuis 18 mois, est donc installée dans ce qu'étaient les anciens locaux des finances, enfin de... Trésor public, merci. Donc la police municipale occupait le rez-de-chaussée. Il y avait donc un plateau à l'étage qui est donc investi avec d'une part la direction des finances et de la commande publique qui a déjà déménagé, n'est-ce pas Catherine ? Et puis le regroupement des différents services de la direction de l'aménagement du territoire, donc avec l'urbanisme, l'assainissement, les services administratifs du centre technique municipal. Et le groupe PLD qui sera également sur ce plateau. Alors, pour ce qui est des accueils de loisirs, donc c'est ce que je vous ai rapidement expliqué tout à l'heure, les accueils vont donc se faire directement dans les écoles, pour toutes les écoles, sauf pour les enfants de Noas, parce que les locaux ne le permettent pas. Mais une solution a été trouvée en organisant l'accueil dans les locaux de l'école du château. Donc, les parents, au lieu de déposer les enfants à la Jouy ou au Pitchoun, Ils les déposeront soit directement à l'école, soit pour les parents de l'école du château, de Noas, ils les déposeront à l'école du château, les élémentaires en élémentaire, les maternelles en élémentaire, et l'accueil sera organisé dans chaque école. Et donc pour le mercredi et les vacances, c'est ce que nous avons voté également avec la prise en charge directe par la CCBN selon l'avenant à la convention. Le foyer de l'amitié, le bâtiment au cœur de la cour Émile Zola, va donc changer de destination. Il va accueillir donc une salle de réunion pour la partie gauche, la grande salle, où sera la salle de réunion conjointe pour tous les services, la salle de pause des agents et puis un bureau pour les élus. Donc le deuxième objectif, vous l'avez compris, hein, donc de réduire la facture énergétique dans les bâtiments. Donc nous avons adapté les températures de chauffe. Donc la crèche à 21 degrés. Vous avez donc au centre les températures de chauffe et à droite les dates de réouverture. Donc depuis le 26 septembre, Monsieur Billou, la résidence personne âgée à 21 degrés depuis le 26 septembre. On n'a pas cherché à faire les amarres, hein, ni avec nos enfants, ni avec nos aînés. On sait bien qu'ils ont besoin de chaleur et donc on a remis le chauffage dès que c'était nécessaire. Les écoles sont donc réglées à 19, les centres de loisirs à 18, la médiathèque également ainsi que la PM, le CCAS. Le gymnase réglé à 14 degrés depuis le 14 novembre. Donc il y a eu des soucis techniques ce week-end. Hein, donc les prestataires sont intervenus pour rétablir le chauffage. Donc la consigne est donc à 14. Alors le tout en concertation avec notamment par exemple avec le club de hand qui nous a confirmé qu'au niveau des compétitions on pouvait descendre jusqu'à 12 degrés avec le comité départemental de handball par exemple. Pardon, hôtel de ville. Non, ça n'a pas été mis en œuvre ça. Alors, je précise que pour les bâtiments qui sont vidés, évidemment, il s'agit de faire le nécessaire pour que les bâtiments ne se dégradent pas, et donc bien sûr de les maintenir en hors-gel. Donc toujours dans la réduction de la facture énergétique des bâtiments, nous sommes donc, et je le répète encore une fois, contraints à la fermeture temporaire de la piscine. Donc c'est pareil, nous avons dès le début du mois d'octobre réuni l'éducation nationale, l'inspectrice du primaire, Madame Trindman, les clubs qui utilisent, que ce soit Nanji Natation ou les plongeurs, les utilisateurs de la salle verte également, pour les alerter sur la situation. On avait pris une motion également lors du dernier conseil municipal pour alerter sur la situation. Visiblement, l'État ne considère pas que le savoir nager soit une priorité, sinon il aurait fait le nécessaire pour couvrir 100% des dépenses pour les piscines. Ça n'est pas le cas. On laisse les collectivités face à ce défi-là. Le club de natation avait ses interclubs le week-end du 13-14. Le collège avait ses cycles de natation avec les sixièmes jusqu'à cette semaine. Donc on a essayé de tenir au maximum. Et donc nous fermons à regret. On a essayé de travailler également avec le syndicat, avec le SICPAN. Demander une contribution également aux autres communes qui nous ont dit que l'état de leurs finances ne leur permettait pas non plus d'assumer ces dépenses. On a même réfléchi à changer, pour pouvoir changer les statuts, pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire, mais ce n'était pas possible. On a vraiment exploré toutes les 36 kVA maximum, avec consommation. Bref, on a essayé d'explorer toutes les pistes possibles pour éviter d'en arriver là. Mais rien n'a abouti. Donc 520 000 euros minimum de chauffage hors électrique. l'électricité. Voilà. Donc, nous avons donc prévenu, évidemment, en premier, les agents du centre aquatique, qui, dès la semaine prochaine, dès la fermeture, prendront attache avec les adhérents, avec les utilisateurs des services municipaux pour les cours d'aquagym, etc., pour voir avec les adhérents s'ils souhaitent être remboursés de leur carte, s'il faut décaler. Voilà, tout ça, ce sera fait puisque les agents auront le temps de se charger de ces missions. Oui. Alors, pour ce qui est de l'éclairage public, vous le savez, la sécurité, c'est aussi une de nos priorités. Et donc, nous avons décidé de ne pas fermer l'éclairage public, de ne pas éteindre, de ne pas couper, pardon, l'éclairage public la nuit. Parce que, on l'a vu tout à l'heure sur les premiers graphiques, l'éclairage ne représente que 7% de la consommation de la ville. Et donc l'enjeu ne nous apparaît pas suffisant au regard des risques et de la sécurité, de l'intérêt que nous portons à la sécurité des Nangiciens. En revanche, nous allons décaler, c'est-à-dire que l'éclairage public va s'éclairer un peu plus tard le soir et s'éteindre un petit peu plus tôt le matin. Voilà, jouer sur ces périodes-là. Pour ce qui est des éclairages de Noël, des décorations de la ville, donc nous avons décidé une réduction importante du quantitatif. Et donc nous éclairerons uniquement le centre-ville, la cour Émile Zola dans laquelle se tiendra le marché de Noël et le château, qui représente une économie de 10 000 euros, donc 38% de moins sur le coût de la pose et de la dépose, parce qu'en fait, il faut savoir que pour les éclairages de fin d'année, ce qui coûte le plus cher, ça n'est pas l'éclairage, puisqu'on est sur de la LED, ce qui coûte le plus cher, c'est l'installation et la désinstallation, avec les nacelles, la girafe et je ne sais quoi. Donc les animations la réduction des animations, c'est une estimation sur le coût qui était envisagé d'installation et de fonctionnement énergétique. Donc là aussi, nous avons fait le choix de la sobriété. Et pour information, 1 centime par habitant, c'est le coût estimé des décorations des illuminations de la ville. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment un coût... Donc des propositions d'action à moyen terme, notamment avec une flotte de véhicules mutualisés, l'achat de véhicules à mobilité douce. L'enjeu, c'est d'essayer de se positionner aussi sur tous les appels à projets. Globalement, donc un plan d'économie indispensable. Donc, Monsieur Lancel, peut-être vous voulez sur la partie.
C'est qu'on révise l'ensemble des contrats qui sont les nôtres, mais aussi à travers probablement une centrale d'achat, mais enfin, mutualisée à travers les services, la création effectivement d'un pool d'achat qui permettra d'avoir des rationalisations dans le cadre des dépenses afin d'éviter des doublons ou, travailler sur les prix, sur le volume et non pas simplement sur le produit par lui-même. Ensuite, la création d'un service d'achat, c'est ce que je viens de vous dire, la création d'un plan d'économie. On poursuit sur les économies de manière générale. Ça va dans le cadre, par exemple, des véhicules, comme l'a dit Madame le maire tout à l'heure. On a un nombre de véhicules, beaucoup, on paye de l'assurance pour pas grand-chose, parce qu'on pas forcément, donc on est obligé de travailler là-dessus. Le plan d'économie, il va aussi sur la mutualisation avec l'intercommunalité, ça c'est un sujet qui a un cœur. Pouvoir travailler là-dessus rapidement. Ça va aussi sur la partie faire des économies. On continue notre plan sur les dépenses énergétiques. Ça, c'est l'ordonnancement du plan pluriannuel d'investissement. La rénovation énergétique des bâtiments, ça faisait partie de notre programme électoral, mais là, on bascule sur des projets pour les faire avancer un peu plus vite. La poursuite de la rénovation de l'éclairage public, c'est un projet aussi important, puisque même si c'est que 7%, on arrive à baisser de 30%, enfin, 70% le coût de la consommation, c'est quelque chose qu'il faudra bien entendu valoriser. Le changement des éclairages intérieurs en LED, des poses de robinet, thermostatique, ça c'est aussi un esprit, c'est plus un point de vue écolo. Voilà. Ah oui,
on peut. Donc, globalement, pour résumer, l'enjeu, concentrer les services et limiter l'usage des bâtiments. Donc, vous l'aurez compris, on vide la petite maison face à l'église. On vide l'étage de l'hôtel de ville. On vide la partie bâtimentaire des services techniques, enfin les bureaux des services techniques. Voilà, on garde évidemment les ateliers et les bureaux qui donnent directement sur la cour. On vide également donc, les accueils de loisirs, Joury, Pichoun et les bâtiments qui mitoyens, c'est-à-dire la partie où il y avait l'informatique, où il y avait le service éducation, etc. pour essayer de limiter au maximum notre consommation. Comme on l'a déjà dit lors du dernier conseil municipal, on sait très bien que de toute façon, avec des coefficients x6, des ratios de 6, quand bien même on arriverait à diviser notre consommation énergétique par 2, la facture serait quand même multipliée par 3.
Juste un tout petit point pour rajouter, vous parliez tout à l'heure du filet sécurité, M. Billou, croyez bien qu'on l'a calculé, le montant maximum auquel on pouvait prétendre, c'était 321 000 euros. Absolument pas les problèmes que l'on rencontre. C'est une petite précision.
Donc je voulais ajouter, pour répondre à votre question, Madame Lagoutte, par rapport aux associations. Donc là, on vous a expliqué ce qu'allait devenir le foyer de l'amitié. Le foyer de l'amitié accueillait le club de l'amitié, donc le déménagement. Il avait un bureau en bas à droite, donc le déménagement a été effectué avec un chantier jeune, notamment dès les vacances de la Toussaint. On a trouvé un autre espace pour le matériel du foyer du club de l'amitié. La galerie d'exposition qui est donc ici, plutôt que de ne pas avoir d'usage en dehors des expositions évidemment, va devenir une salle d'activité. Elle accueillera à la fois l'association Créa Tout Main et le club de l'amitié. On n'a pas parlé du centre Louis Aragon. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de vider la partie gauche de l'espace Aragon. Donc d'où la relocalisation de Créa Tout Main. On a aussi les répétitions du club de théâtre, du Nouveau Miroir. Donc on leur a proposé de répéter directement à la bergerie. Ils sont ravis de la proposition. Donc voilà. On continue à travailler. On a une réunion encore vendredi avec l'école de musique. Puisque pour l'instant, on laisse chauffer la partie droite du centre Louis Aragon. Dans la partie gauche, il y a les clubs orchestres, les répétitions d'ensemble et à grands effectifs. Mais il y a aussi les cours individuels. Or, on a des espaces disponibles au-dessus de la crèche qui sont sous-utilisés puisqu'il n'y a que les permanences d'APS Contact, une association qui lutte contre les addictions. Et donc l'objectif est d'essayer d'utiliser au maximum ces espaces puisque de toute façon, la crèche est chauffée. Donc autant utiliser les espaces qui sont à l'étage. Voilà. Donc on travaille avec l'école de musique pour... en plus, c'est à côté... pouvoir installer un maximum de cours et pouvoir vider d'autres espaces. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je voulais préciser une chose. Pourquoi on fait ça ? C'est pas simplement pour faire des économies. le budget d'une commune, pas comme l'État, doit être voté à l'équilibre. Et les investissements, on sait tous qu'ils sont indispensables, parce que nos bâtiments publics ont besoin de rénovation, parce que nos voiries ont besoin de travaux, parce que voilà. Et pour ça, il y a besoin d'argent. Et le budget d'investissement, c'est soit de l'emprunt, soit ce qui vient du budget de fonctionnement. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte de contracter le budget de fonctionnement pour qu'il en reste à verser à l'investissement. Voilà. Madame Lagoutte, vous aviez des questions? Oui, monsieur Durox.
Oui, je voudrais juste profiter très brièvement de ce point de contexte que vous avez fait, très intéressant par ailleurs. Quand même, pour dire ma consternation, en fait, de voir les collectivités en France être obligées de faire des économies de chandelle, alors que nous avions pendant très longtemps l'énergie, l'électricité en particulier, la plus sûre, la moins chère et la plus décarbonée au monde. Comment la sixième puissance mondiale en est arrivée à discuter de ce genre d'économie, à déplacer les services, etc. Et là, il faut le dire, moi je déplace la focale un petit peu sur le plan national, mais toutes les décisions qui ont été prises depuis une vingtaine d'années, et même depuis une trentaine d'années, par la droite et par la gauche, mais plus souvent par la gauche, il faut le dire quand même, nous ont conduit à cet état qui nous amène près de la tiers-mondisation en réalité. C'est affligeant ce genre de situation. Et j'espère que ceux qui sont responsables de cela, tous les responsables politiques qui nous ont conduits droit à l'abîme, présenteront leurs excuses et un jour seront jugés pour trahison des intérêts supérieurs de la France et des Français. C'est affligeant, je pense aux collectivités, je pense aussi à tous les Français qui voient en ce moment leurs factures exploser, je pense à toutes les petites entreprises qui s'ouvrent terriblement, je pense à toutes les faillites qui vont avoir lieu certainement en cette fin d'année, et je pense que nous n'avions pas de pétrole, mais nous avions des idées. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Et je suis catastrophé de la situation de mon pays, de notre pays. Et voilà, c'est là, bien sûr, à notre échelle, on peut discuter de ça. Mais je crois que c'est important. On fait aussi de la politique pour que, voilà, on sache que les décisions ont été prises, elles ont été mal prises, et qu'il y a des responsables. Il faut bien les nommer.
Vous l'avez dit, vous faites de la politique. C'est vrai que tout notre choix ici au conseil municipal, ça a toujours été de gérer, de faire ce qu'il y a à faire. On partage le constat, c'est catastrophique. Voilà, comment on en est arrivé là, comment on en arrive dans une commune à réfléchir à un plan communal de sauvegarde pour pouvoir faire face à des réfugiés climatiques nantgiciens. À des gens qui en plein hiver n'ont plus de chauffage chez eux. Alors, je vous avoue, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là et on essaye de gérer l'urgence au mieux et de trouver des solutions avec les services, avec. Voilà. Maintenant que les responsables s'excusent.
Soyez jugé.
Justin, M. Durox. Je pense que de ces difficultés, il faudra qu'on en tire une opportunité, en fait. Et nous, on en tire une opportunité, on regroupe certains services qui vont pouvoir travailler ensemble, peut-être de manière plus efficiente, et toujours en concertation avec les agents, et surtout avec la volonté de maintenir le service public. Madame Galochet en parlera peut-être probablement, mais si on ne prenait pas ces mesures aujourd'hui, on est arrivé à environ 600 000 euros de taux financement qui nous permettait de faire les travaux, de faire les choses en complément entre le fonctionnement et l'investissement. Les différentes économies que nous avions faites avaient poussé à 1,5 million, 1,6 million de ces capacités. Si on ne fait rien, on retomberait quasiment à des montants inférieurs à ce que l'on avait quand nous sommes arrivés. Et cette capacité d'autofinancement pour avoir eu les banques en face nous ont permis d'avoir ces 10 millions que nous a reprochés récemment à des taux vraiment très très intéressants, puisqu'on a une inflation à 6,2 aujourd'hui, que nous avions d'ailleurs l'an dernier évoqué, voire alerté, si nous ne les avions pas, nous ne pourrions pas faire les travaux que nous avons. À dire en référence près, c'est que nous avons contracté ces 10 millions pour faire des choses. On a un héritage de 10 millions qu'il faudra financer, bien sûr, hein, puisque ça, c'est le côté héritage du passé. Sachez en tout cas que nous, notre volonté, c'est de faire ça. Pardon ?
C'est vous qui venez d'embrasser
10
millions.
Bien sûr, monsieur, vous avez raison. La différence entre vous et nous, c'est que nous, il y a peut-être, comme vous dites, 20 millions d'aides, mais il y aura 10 millions de travaux pour faire le nécessaire. Vous avez laissé 10 millions. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, dites-nous ce que vous avez réalisé avec ces 10 millions. Ah, quel silence éloquent.
On va prendre le temps de vous informer sur la totalité.
Les 10 millions d'euros dont vous parlez, ce n'est pas sur un mandat, c'est sur des années.
Regardez l'état des bâtiments. Il n'y a
pas un si on en est là, si on en est là.
Regardez les fenêtres de l'hôtel de ville, c'est des passoires. Mais enfin, soyez honnêtes, tout simplement, vous avez fait votre politique, c'est la vôtre, et nous, on est dans une politique différente.
On cumule trois difficultés à Nancy. Je vous l'ai dit, 47 000 m² de surface de bâtiment, ce qui est énorme pour une commune de notre taille. Le deuxième point de difficulté, c'est l'état bâtimentaire général. Vous l'avez dit, enfin, venez en salle des commissions, regardez l'état des fenêtres, on est encore avec du simple vitrage, des fenêtres en bois qui doivent avoir une bonne centaine d'années. Quand vous êtes à l'étage, suivant comment le soleil est orienté, vous voyez le jour qui passe à travers les montants de la fenêtre. Je me souviens aussi, quand on avait visité l'école du château, on nous dit, bah oui, il y a des modèles de fenêtres différents dans chaque salle de classe, parce que tous les ans, il y avait une salle, mais du coup, il n'y a jamais eu de véritable plan de rénovation d'ensemble. Ici, il y avait une corde qui pendait là, parce qu'il y avait des fuites. Alors voilà, il y avait une corde et un seau là, au milieu de la salle, qu'on retirait pour les vœux du maire. Bon bref, j'en passe et des meilleurs. Troisième grosse difficulté à laquelle on doit faire face, c'est l'absence de réflexion intercommunale sur les services et leurs usages. Il n'est pas normal que la piscine soit uniquement à la charge des Nancyciens. Il n'est pas normal que la médiathèque, qui n'est fréquentée qu'à un tiers par les Nancyciens, soit 100% à leur charge. Cette communauté de communes, elle existe depuis 2005. Qu'est-ce que vous en avez fait depuis 2006? Qu'est-ce que vous en avez fait depuis 2006? À quoi elle a servi pour les Nancyciens? Moi, je m'interroge. On a une crèche qui est municipale, on a une résidence personne âgée qui est municipale. Est-ce que vous connaissez beaucoup de communes de 9000 habitants qui ont autant de services et autant de bâtiments à charge? Il n'y en a pas. Allez, regardez, vous nous disiez tout à l'heure, ah, mais les piscines aux alentours, elles ne ferment pas. Ben oui, la belle affaire. À Grandpuy, c'est un syndicat intercommunal qui gère l'investissement et le fonctionnement. Les agents, ils ne sont pas agents de la ville de Grandpuy, pas plus que de celle de Mormant, ils sont agents du syndicat. À Provins, c'est une piscine intercommunale. Il n'y a qu'à Nancy, où sont les Nancyciens qui payent pour que tout le monde vienne se baigner. Et quand on augmente les tarifs, on a une bronca de tout le monde autour. Ah, bah nous, on ne veut pas payer plus cher. Bah non, c'est tellement mieux quand ce sont les Nancyciens qui payent. Là, on a encore reçu en courrier en mairie ce matin une dame charmante de Meigneux qui nous explique à quel point la culture est importante. À quel point c'est important la médiathèque. Donc je le redis, on ne ferme pas la médiathèque. Mais elle est bien gentille, cette petite dame de Meigneux. Qui paye la médiathèque? Elle, avec ses 5 euros d'abonnement à l'année? Qu'on fasse le calcul concret pour les Nancyciens. Donc si on en est là, c'est aussi parce que la communauté de communes n'a pas fonctionné correctement depuis son origine. Si les communautés de communes, elles ont été faites, c'était pour mutualiser, pour se payer des services à plusieurs, et pas pour qu'il y en ait un qui paye pour les autres. Et là aussi, on n'est pas d'accord avec vous et on n'a pas la même vision de territoire que vous. Mais si, je m'énerve. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de vous.
Mais oui, bien sûr. L'augmentation du gaz, c'est nous. L'augmentation du gaz, c'est
nous. Vos amis,
le marché européen de l'énergie, excusez-moi,
je voudrais quand même vous lire, puisque lors du dernier conseil municipal, nous avons déjà abordé ces difficultés et nous avons appelé tout le monde à essayer de nous proposer des solutions. Et je ne résiste pas au plaisir de lire la proposition, alors, bon, sous le nom de Madame Cosseron, mais j'imagine que c'est une position partagée, les solutions sont à rechercher dans la mobilisation des collectivités territoriales pour exiger du gouvernement un bouclier tarifaire pour les communes, le retour vers le tarif réglementé du gaz et de l'électricité et une autre politique énergétique au niveau de la France et de l'Europe, interdisant la spéculation sur l'énergie. Donc, si on vous écoute, on achète une belle banderole qu'on met sur la mairie, hein, mobilisons-nous, exigeons un bouclier tarifaire. Et bien, nous, on fait un autre choix. Donc, on met les mains dans le cambouis, on est dans la difficulté, mais on y va parce qu'on pense que on essaye d'être pragmatique. Voilà. Et on déplore, je le dis, on déplore que la seule solution dont vous parliez là-dedans, ce soit celle-là.
Oui, bien sûr. Parce que tout dépend beaucoup, effectivement, aujourd'hui, du système énergétique européen et la façon dont il se finance et dont il est absolument sous la coupe de gros groupes qui font des profits considérables.
Mais on sait que vous allez en manifestation dimanche.
Si vous ne travaillez pas avec les députés européens, si vous ne travaillez pas avec vos députés à l'Assemblée nationale, vous en connaissez ici, eh bien, effectivement, vous aurez un budget de l'État qui ne répondra pas aux besoins des collectivités territoriales et vous continuerez à trouver des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions, vous le dites vous-même. Donc voilà, à un moment donné...
Mais bien sûr que oui.
Et vous avez pas laissé de toute façon, c'était une information, il n'y a pas de débat, vous avez pris les décisions. Alors assumez-les.
Mais c'est tellement plus facile. Vous auriez fait quoi, monsieur Billou?
Eh bien, le conseil municipal extraordinaire là-dessus n'aurait pu effectivement discuter des solutions.
Et peut-être qu'on serait d'accord sur un certain nombre de choses.
Donc finalement, vous auriez été d'accord, vous auriez fait ce qu'on a fait.
Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais vous n'avez pas voulu de ce travail-là, donc excusez-moi, assumez ces décisions. Ce ne sont pas les nôtres.
Non, que c'est bien la gauche qui a désinvesti massivement dans le nucléaire depuis 30 ans, la gauche qui a soutenu avec François Hollande, qui a fait Pierre de Fessenheim, etc. Et donc on en est là aussi à cause de la gauche.
On ne peut que partager votre avis. Le groupe de la NUPES reprend ces choses-là. Ils sont contre le nucléaire, ils sont contre beaucoup de choses. Monsieur Billou, je suis désolé, c'est le cas. Vous pouvez dire non, mais malheureusement, c'est pourtant la réalité. Le marché financier, c'est des marchés financiers. Imaginez qu'on va importer, on exporte du gaz, on importe de l'électricité, alors qu'on était les premiers producteurs. Mais effectivement, ça, c'est pas normal. Mais là, je peux vous dire, je suis désolé. À l'époque, la gauche était contre cette volonté de maintenir nos centrales. On vous a pas beaucoup entendu à l'époque pour les maintenir.
Au Sénat, au moment de la privatisation de Gaz de France.
Bah, on en a vu l'efficacité.
Allez.
Ah oui.
C'est vous qui l'avez privatisé. Vos amis.
C'est
vrai. Ah oui, GDF Suez, ce n'est pas.
C'est nous, c'est le groupe.
Alors, questions diverses.
Allez-y, un sujet local.
Nous ne sommes que dans des sujets locaux.
Oui, on est quelquefois sur la conséquence de choix dans l'application ici. Alors que vous préemptez pour la somme de 80 000 euros un terrain pour installer 5 à 6 jardins ouvriers, plus d'une quarantaine de locataires de jardins familiaux s'inquiètent pour l'avenir de leur activité puisque deux demandes de permis de construire ont été déposées le 30 septembre dernier. Grâce des numéros de permis pour la construction de 62 logements chacun, c'est pas très bien, en collectif pour 4652 m² de plancher sur la parcelle 104 de 12 617 mètres carrés de surface au sol, ce qui constitue donc une forte densité de population. Ces demandes de permis de construire sont déposées par un promoteur que vous connaissez bien, il s'agit du groupe Nessie, qui a accepté de faire partie de la future société coopérative d'intérêt collectif Amaya Nangy, que vous souhaitez constituer, avec un certain monsieur Hubert Cortès Saint-James, qui ne nous a jamais été présenté. Ce monsieur est chargé d'animer le collectif Amaya avec monsieur Laurent Salmon, chef de projet Petite Ville de Demain. Mais nous avons appris un départ supplémentaire de notre collectivité, celui de monsieur Salmon. Donc, première question, nous vous remercions de nous expliquer qui va dorénavant piloter le dossier Petite Ville de Demain et qu'est-ce que devient le collectif Amaya et le projet de constituer une SNC. Deuxième question, nous arrivons donc au terme de l'instruction et nous souhaitons donc connaître votre décision en sachant que le PLU actuel impose dans la zone UD concernée un pourcentage de 20% de logements sociaux ou 30% de logements intermédiaires. En outre, le secteur des tanneries fait l'objet d'un périmètre d'études permettant de favoriser la réalisation d'un projet d'ensemble permettant de trouver une solution économique viable pour résorber la friche industrielle. Le fait de construire en premier sur la parcelle la plus facile à aménager compromettra durablement la résorption de celle-ci. Troisième question, si vous accordez ces deux permis de construire, comment envisagez-vous l'avenir de la quarantaine de jardiniers installés sur le terrain concerné par les constructions ?
Alors, première chose, je vais commencer par rectifier certaines vérités que vous affirmez et qui n'en sont pas. Le terrain dont vous parlez, sur lequel se situe ce projet, est un terrain privé, qui n'est absolument pas géré par l'association des jardins ouvriers de Nangy.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ce sont des jardins familiaux.
Ce sont des jardins familiaux.
Des jardins familiaux.
Et ce sont des locataires. Oui.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire, les jardins familiaux. Ça fait référence à certaines pratiques, à une association logicielle notamment. Bon, bah, écoutez, je le précise donc pour tout le monde. Là, il s'agit de propriétaires privés qui avaient des arrangements qui ne nous regardaient pas avec des individus, des familles et sur des parcelles de différentes tailles, avec une gestion strictement privée. Donc ça n'a rien à voir avec la ville. Et je précise bien que ces terrains ne sont pas des terrains qui appartiennent à la ville. Ça, c'est la première chose.
Pas du contraire.
Non, mais...
Non, mais on sait que ce n'est pas la ville.
Non, par contre, il y a des permis de construire des déposés.
Alors, dans votre document, l'urbanisme, selon Mme Le Bouter, et maintenant, elle projette la construction de 62 ou 124 logements. Elle projette. Comme si elle était propriétaire, elle fait des projets. Eh bien non, Mme Le Bouter n'est pas plus propriétaire que la ville de Nangy, et elle ne projette rien du tout.
Et Nexity n'est pas du pouvoir.
Mais Nexity n'est pas Mme Le Bouter.
Mais vous les connaissez pas.
Je continue.
Au même titre que Carbeau, que
donc 62 logements en collectif. Non, c'est pas 62 en collectif. C'est 22 en habitation individuelle et 40 en collectif. Ces demandes de permis de construire, donc déposées par un promoteur que vous connaissez bien, alors que j'adore le que vous connaissez bien. Ça, c'est votre affirmation. C'est bien, vous vous êtes fait plaisir. Non, je ne les connais pas bien, non. C'est pas parce qu'on a pu travailler avec eux sur un projet, et encore, je ne suis même pas sûre qu'ils étaient dedans. Ils ne font pas partie du collectif Amaya, pour préciser pour tout le monde. On a répondu il y a un peu plus d'un an à un appel à projet national pour la conversion de la Grande Plaine, où justement, on a travaillé avec le collectif Amaya et donc avec... Hubert Cortès Saint-James, que nous avons effectivement rencontré dans des réunions de travail à Nangy, puisque nous avons déposé ensemble un projet auprès des services de l'État. Il s'agissait d'un développement de la Grande Plaine avec du logement, avec de l'activité économique singulière, originale. Bref, il se trouve que le projet n'a pas été retenu. Donc, stop, ça s'arrête là, il n'y a pas de ski, il n'y a rien, parce que le projet évidemment, si on ne les a pas, on ne fait plus. Vous parlez de Laurence Almon, effectivement. Laurence Almon était notre chargé de mission Petite Ville de Demain. Il a quitté la ville de Nanchy. Et donc, ces dossiers sont repris par notre directrice de l'aménagement en attente du recrutement d'un nouveau chef de projet.
Je me permets de rappeler que M. Salmon est parti, très bon terme avec lui, il n'y a pas de souci, au contraire, il est parti prêter main forte à la communauté de communes pour le CRTE, qui est une strate nécessaire, qui fonctionne avec PVD. Donc on ne perd pas le savoir, au contraire, on le distribue, puisque la communauté de communes était aussi en défaillance sur ce sujet-là.
Je voulais trop de départ,
pas compris.
Vous dites que M. Salmon est parti parce que vous partagez le savoir, c'est ça?
Oui, on partage le savoir.
D'accord. Et les très autres qui débarquent, qui sont partis, c'était aussi pour partager?
Donc je continue.
Et pour d'autres, on peut encore partir certains, j'en serais très content.
Ah oui, alors. Voilà. Il y en a encore qui vont partir.
Donc j'ai répondu à votre question, savoir donc qui va piloter le projet PVD, c'est donc notre directrice de l'urbanisme en attente du recrutement d'un nouveau directeur de projet. Le collectif Amaya, bah, il fait sa vie de collectif. Hein. Le projet de constituer Unskip, bah, il n'existe plus, puisqu'on n'a pas été retenu dans l'appel à projet. Donc je vous confirme que Next City, non, ce ne sont pas, je ne les connais pas particulièrement. Et il ne faisait pas partie du collectif Amaya. Et donc, je rappelle qu'il s'agit
d'un privé et que... Hein. J'ai un courrier de Next City qui dit précisément le contraire.
Voilà.
Mais c'est un courrier que vous m'avez transmis, monsieur. Bien sûr, oui.
Donc, je continue. Vous écrivez, vous dites, nous arrivons au terme de l'instruction. C'est faux, monsieur Billoux. Puisque le délai d'instruction est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet. À ce jour, le dossier n'est toujours pas complet. Donc, il est en instruction par nos services. Leur travail d'instruction. Il est en cours, il sera instruit évidemment dans le respect de la réglementation et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler en fonction du résultat de cette instruction. Vous parlez du secteur des tanneries qui fait l'objet d'un périmètre d'études. Alors effectivement, nous avons cherché, vous aviez décidé d'un périmètre d'études, je crois, en 2015, périmètre d'études qui était prévu pour 10 ans. Mais qui n'a pas été repris dans le PLU de 2018, qui n'apparaît plus que sous la forme d'une OAP. La difficulté est donc que cette OAP est une OAP d'intention, c'est-à-dire un vœu, qui s'intitule « Accompagner la densification des parcelles mutables ». Elle a été instaurée, elle préconise la réalisation d'un plan d'aménagement. Je vous lis la phrase. Un plan d'aménagement s'avérera nécessaire avant toute mise en construction. Sauf que le plan d'aménagement n'a pas été fait, n'a pas été joint en annexe de cette OAP qui est donc partie du PLU, et que la ville ne peut demander un plan d'aménagement global à un propriétaire. Un investisseur sur une parcelle qui ne lui appartient pas. Puisque là, Next City se positionne en gros sur 2 des 3 parcelles. Et on ne peut pas leur demander de réaliser un plan d'aménagement sur une parcelle qui n'est pas à eux. Je les ai là, les OAP. Pour le secteur des tanneries, si vous vouliez que ça reste, il fallait prévoir des choses beaucoup plus restrictives. Alors, pour le secteur des tanneries, au moment de l'approbation du présent PLU, aucune programmation précise ne pouvait être figée pour ce secteur en devenir. Possibilité d'habitat d'échelle raisonnable, pas de programmation pour de nouveaux équipements, interrogation sur l'opportunité de développer des commerces, donc stratégie de veille. Ça, c'est issu du PLU. Stratégie de veille avec la prescription de perspectives paysagères. Donc là, il s'agit de prescriptions qui peuvent être exigées de la part des constructeurs. De cheminement. d'évitement piéton à préserver, de recul de constructibilité à respecter et d'un emplacement réservé pour la création de parking à proximité du centre-ville. Et nulle part, je ne lis, emplacement réservé pour la création de jardins. Donc nous, aujourd'hui, on fait avec les documents que vous nous avez laissés.
Les jardins, c'est dans la grande plaine.
Ah, c'est bien.
Voilà, dans la parcelle. Alors, que nous avons décidé d'acquérir.
Non, je pense que vous confondez. Je me souviens très bien d'une réunion publique dans cette salle. Parce qu'effectivement, le secteur des tanneries à l'origine faisait partie de la grande plaine. Oh, et vous avez raison. Je me souviens, on était ici en réunion publique et vous nous aviez montré à l'écran, avec votre souris, que les jardins ouvriers qui étaient sur le secteur des tanneries, vous alliez les déplacer de l'autre côté de la rue. Et je m'en souviens d'autant plus que j'avais moi-même pris la parole dans cette réunion publique en vous disant, Monsieur Billou, on voit que vous ne maniez pas souvent la fourche bêche parce qu'il est plus facile de déplacer les terrains avec un clic de souris que réellement sur le terrain. Et en fait, vous avez, à la suite de ça, vous avez sorti la ZAC des tanneries de la ZAC de la Grande Plaine. Donc là, je pense que vous faites référence aux anciens projets.
La réunion dont je vous parle, c'est en 2013. La Grande Plaine n'a jamais intégré les tanneries.
Vous rigolez ? Mais bien sûr que... Alors, Laura, vous notez, parce que là, si.
On a pratiquement sorti ce secteur-là au moment où, maintenant, la création de la ZAC de la Grande Plaine, on reprenait le défi.
Vous
en
faites pas, on vous connaît. La preuve, au moins, c'est même. Donc, notre difficulté aujourd'hui, on a donc effectivement des constructeurs, ils viennent, ils déposent un permis. On est dans un permis dans un pays démocratique, on ne peut pas encore les interdire de déposer. Alors, le dépôt, il est libre. Ensuite, les dossiers, ils sont étudiés par les services. Au regard des textes qui existent. Donc, au regard du PLU, PLU, le vôtre. Donc, si vous vouliez certaines prescriptions sur ce secteur, il fallait qu'elles soient prévues. Voilà.
Donc, il y aura 20% de logements sociaux dans la construction.
Pardon ?
Donc, il y aura 20% de logements sociaux.
Mais c'est des privés.
Parce que c'est intégré dans le PLU.
Le dossier étudié devra respecter la réglementation.
Et les 40 jardiniers, ce n'est vous. On est d'accord ?
Mais vous avez prévu quoi pour eux ? Vous êtes mignons. Non, mais débrouillez-vous. Non, justement, on veut préempter un terrain en centre-ville. Vous trouvez que ça coûte trop cher ? Alors, pardon, mais on essaye de les trouver, les solutions.
Mais franchement, vous avez de la place dans la grande plaine, hein, à 10 euros le mètre.
Ah ouais, on ne veut pas.
Mais c'est pas si compliqué que ça.
Vous allez pouvoir les acheter.
Alors, je vous rassure.
Mais c'est de la terre agricole pour faire un jardin, c'est
pas mal. Mais M. Billou, on ne vous a pas attendu pour y penser. Et évidemment, le long des bassins de la sucrerie, on ne va pas aller mettre des habitations. Donc évidemment que sur ce secteur-là, on a prévu de mettre des jardins ouvriers. Sauf qu'on sait très bien que les délais ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais on ne va pas aller mettre des maisons le long des bassins de la sucrerie.
La séance est levée.
Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ?
Oui.
N'oubliez pas, Laura. Enfin, je trouve. Merci. Il y a des signatures pour les décisions modificatives. Je lève donc cette séance. Merci à vous.
Zéro, zéro, zéro.